Bonjour, vous êtes sur France Culture. Tout à l'heure, dans la grande table d'été, nous parlerons des objets ordinaires dans l'art, juste avant de faire le portrait de Maria Schrader. Il est 12h30. L'heure d'écouter le journal de la rédaction, présenté par Ludovic Piétenu. Bonjour.
Bonjour Maëlys, bonjour à tous. L'appel à la prudence dans les établissements scolaires par crainte d'attentats. Le gouvernement prend toute une série de mesures à destination des préfets et des recteurs, de l'information aux parents jusqu'à l'exercice de simulation d'une intrusion dans une école. Qu'en pense la communauté scolaire? C'est à suivre dès le début de ce journal. C'est le Canard enchaîné qui, ce matin, publie une étude conduite par l'Agence du médicament qui relance le débat sur le manque de réactivité des autorités sanitaires et du laboratoire Sanofi quant à la prescription du valproate de sodium, un antiépileptique qui fait courir le risque pourtant bien connu de malformation pour l'enfant à naître si cette molécule est prescrite aux femmes enceintes. Plus de trêves qui tiennent au Yémen. Les raids de la coalition emmenée par l'Arabie Saoudite ont repris après 3 mois d'accalmie. Au même moment, on apprend que les États-Unis scellent avec Riyad un contrat d'armement d'€1 milliard. Nous évoquerons cette guerre au Yémen avec notre invité Aymeric Éluin, chargé de plaidoyer armes et impunité à Amnesty International. Et puis des commentateurs sportifs fustigés sur les réseaux sociaux à l'occasion des Jeux Olympiques de Rio, commentaires racistes ou ethnocentrés, des téléspectateurs saisissent le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Quand la crainte du terrorisme envahit tous les pans de la société, jusqu'au très théorique inviolable sanctuaire scolaire. De nouvelles instructions ont été données dès la fin du mois de juillet, 2 semaines après l'attentat de Nice, 1 semaine après celui de Saint-Étienne-du-Rouvray. Nouvelles instructions données par les ministres de l'Éducation et de l'Intérieur. Le contexte, écrivent Najat Vallaud-Belkacem et Bernard Cazeneuve, aux préfets et aux recteurs, impose une vigilance renforcé. Parmi ces nouvelles mesures, il est demandé notamment aux directeurs d'école de tenir des réunions avec les parents d'élèves pour leur exposer les mesures de sécurité prises dans les écoles, les collèges et les lycées. Des exercices de simulation d'attaque aussi, au nombre de 3 par an, devront être organisés. Bonjour Ezequiel Fernandez.
Bonjour Ludovic, bonjour à tous.
Vous avez interrogé ce matin la communauté scolaire.
Oui, ces mesures viennent compléter des circulaires déjà prises en fait fin 2015. En fait, il s'agit de les rendre opérationnelles à l'occasion de cette rentrée. Pour l'instant, c'est le haut de la hiérarchie qui est concernée, c'est-à-dire les préfets et les recteurs. Il va falloir faire vite, très vite, pour faire descendre l'information dans chaque établissement, école, collège et lycée, et associer les parents d'élèves. C'est bien, mais ce qui aurait été encore mieux, c'est qu'ils soient associés en amont. C'est le regret formulé par Liliana Moyano. Elle est la présidente de la FCPE, la principale fédération de parents d'élèves.
Qui crée beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse chez les parents et chez les enfants, chez les élèves, c'est des choses qui tombent un peu de haut et pour lesquelles ils n'ont pas été associés. Donc effectivement, il faut arrêter avec cette malheureusement culture un peu de l'éducation nationale, des choses qui sont pensées ailleurs et qui ne sont pas forcément beaucoup partagées en coopération et dans le cadre de la coéducation. Donc il est important. Et ce qui est très anxiogène, c'est quand on n'est pas suffisamment informé.
Comment faire en sorte que ces mesures ne soient pas traumatisantes pour les élèves, comme ces exercices de simulation dont vous avez parlé, Ludoïc, sur un scénario d'attentat-intrusion? C'est l'inquiétude formulée par Michel Richard. Il est le secrétaire général adjoint du SNPDEN, c'est-à-dire le syndicat des personnels de direction affilié à l'UNSA Éducation.
La difficulté, c'est qu'il faut faire beaucoup de pédagogie avant de faire ces exercices, quels qu'ils soient, parce que il faut surtout pas augmenter le caractère anxiogène du contexte aujourd'hui dans lequel notre pays vit avec la multiplication des attentats. Mais il faut en même temps sensibiliser les élèves sans inquiéter leurs parents par de l'information au préalable, les sensibiliser à acquérir des réflexes pour que ces réflexes, ils soient à nouveau mise en œuvre si malheureusement devait se produire une situation critique.
Alors les mesures seront détaillées par le gouvernement le 24 août. Le 24 août, c'est-à-dire une semaine tout juste avant la rentrée scolaire, un délai très court pour faire en sorte que l'information circule bien dans tous les étages de la maison éducation.
Merci Ezequiel Fernandez. On ne l'apprend que ce matin, c'est dans la région de Toulouse qu'un homme de 21 ans a été interpellé avant-hier et placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du prêtre à Saint-Étienne-du-Rouvray près de Rouen. Un homme inconnu des services de police et de renseignements qui auraient échangé sur les réseaux sociaux et sur le réseau crypté Telegram avec les deux auteurs de l'attaque. L'inquiétude pour des centaines de familles, des femmes enceintes qui se sont vues prescrire un antiépileptique, également prescrit par des psychiatres pour les bipolaires, le valproate de sodium. Il existe depuis peu en générique, mais il est mieux connu sous le nom de Dépakine, fabriqué par le laboratoire Sanofi. Pour les femmes enceintes, il y a risque de malformation à la naissance. Pour le bébé, la chose est connue depuis longtemps. Il existe une association de familles de victimes qui est mobilisée. En février dernier, l'inspection générale des affaires sociales avait déjà pointé un manque de réactivité du laboratoire comme des autorités sanitaires. Bonjour Florence Thion.
Bonjour.
C'est le Canard Enchaîné qui ce matin publie une étude conduite par l'agence du médicament. Le sujet des Dépakine, on le dit, n'est pas complètement nouveau, mais qu'est-ce qu'apporte à ce dossier cette nouvelle étude, Florence ?
Alors d'abord, il s'agit d'une étude annoncée, menée conjointement par l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, et la Caisse nationale d'assurance maladie. Étude lancée conjointement au rapport de l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales. Ce rapport qui faisait, vous le disiez, déjà état en février dernier de 450 malformations congénitales chez des enfants dont la mère s'était vue prescrire du valproate de sodium entre 2006 et 2014. Cette étude devait être présentée aux familles et à l'association qui les représente, la PESAC, le 24 août prochain. Elle livre en fait des chiffres plus précis. On parle désormais de plus de 10 000 femmes enceintes ayant pris de la Dépakine entre 2007 et 2014. 10 000 femmes exposées, ce qui ne signifie pas pour autant que leurs enfants souffrent de troubles ou de malformations, mais les dangers potentiels étaient déjà connus à cette époque et c'est bien le cœur du dossier, souligne Martine Verdier, avocate de plusieurs plaignantes.
Ces familles, les questions qu'elles se posent, c'est à la fois le système d'alerte qui ne fonctionne pas, mais c'est surtout pourquoi un laboratoire comme Sanofi, qui ne peut pas ignorer de quoi est faite la molécule du médicament qu'il va commercialiser, qui ne peut pas ignorer les risques qui sont connus dès 1980, ne va pas au moins évoquer les risques connus avec l'autorité de contrôle pour modifier la notice du médicament. Parce qu'il n'est pas question de cesser la commercialisation du médicament, qui a des effets évidemment qui sont attendus et qui sont utiles. Mais il faut prévoir d'alerter le médecin quand il va prescrire et d'éviter les risques qui sont connus, notamment pour les femmes enceintes.
Le ministère de la Santé, qui se défend de cacher quoi que ce soit, rappelle qu'au début de l'année, il a lancé en concertation avec les familles une réflexion qui devrait aboutir prochainement à la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes. Mais l'affaire se joue aussi sur le terrain judiciaire avec l'ouverture d'une enquête préliminaire en octobre 2015. Le parquet de Paris pourrait maintenant, en fonction de ces éléments nouveaux, décider de confier une information judiciaire à un juge d'instruction chargé de démontrer les éventuelles responsabilités étatiques, celles de l'autorité de contrôle ou des laboratoires Sanofi à l'époque concernés.
Merci Florence. Le tribunal administratif de Lille demande ce midi la fermeture d'au moins 63 commerces de la jungle de Calais. Ces commerces jugés donc illégaux sont en fait des vendeurs à la sauvette, des salons de coiffure, des restaurants, toutes sortes de commerces informels qui devront donc être détruits en l'absence, a dit le tribunal, de respect des règles d'hygiène et de sécurité. Il y aurait entre 4500 et 7000 réfugiés à ce jour dans la jungle de Calais. Cette décision ne va faire qu'accroître la pression sur les ONG qui, elles, distribue toujours de la nourriture à ses réfugiés. Le conflit au Yémen a repris après l'échec des pourparlers de paix le week-end dernier. La coalition emmenée par l'Arabie Saoudite a même mené hier ses premiers raids en 3 mois sur la région de Sanaa sous contrôle rebelle. Ces raids ont entraîné la fermeture de l'aéroport de la capitale. Ils ont fait au moins 14 morts en touchant une usine de produits alimentaires. Au même moment, on apprend que les États-Unis scellent avec Riyad un contrat d'armement d'€1 milliard, plus de 150 chars, des centaines de mitrailleuses lourdes. Pour en parler, notre invité est Aymeric Éluin. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous travaillez à Amnesty International, chargé de plaidoyer armes et impunité. On pourrait ne pas s'en étonner, j'ai envie de dire un peu cyniquement, parce qu'une vente d'armes des États-Unis, l'un des plus gros vendeurs d'armes à l'Arabie Saoudite, l'un des plus gros acheteurs, rien de nouveau, Aymeric Éluin.
Oui, du point de vue ordinaire du business de l'armement, rien de nouveau. Après, on peut mettre en perspective avec deux faits intéressants. D'une part, cette vente d'armes intervient après l'échec pour parler de paix. On se demande en quoi cette vente d'armes peut contribuer à relancer d'éventuels pourparlers de paix. En deuxième lieu, il faut savoir que l'Arabie saoudite avait été fortement impressionnée par l'utilisation de chars de combat Leclerc, donc des chars de combat français, par les Émirats arabes unis au Yémen, et depuis ne cesse de se poser la question de l'acquisition de chars de combat, et notamment de chars Leclerc auprès des Français. Donc les Français se sont vus couper l'herbe sous le pied, ce sont les Américains finalement qui vendent ces équipements. Aujourd'hui, nous interrogeons sérieusement sur cette vente d'armes qui, aujourd'hui, est susceptible de contribuer à alimenter le conflit au Yémen et susceptible de contribuer à commettre ou faciliter de nouvelles violations du droit international humanitaire avec la commission de crimes de guerre.
Parce que si je lis, Aymeric Helluin d'Amnesty International, si je lis le communiqué des États-Unis, du vendeur, donc, ils assurent que cela va accroître, augmenter la sécurité, la stabilité, écrivent-ils, de ce pays, de cet acteur régional qu'est l'Arabie saoudite.
Oui, alors sécurité par rapport à qui, par rapport à quoi? Les chars de combat aujourd'hui sont en général, quand ils sont utilisés, et ils le sont rarement, quand ils le sont en tout cas, sont utilisés sur des théâtres de combat offensifs, donc comme ça peut être le cas au Yémen. On voit mal des chars de combat de l'Arabie Saoudite intervenir en Syrie ou en Irak. En quoi ces chars de combat, de par leur nature, vont contribuer à la sécurité de la région, sachant qu'en plus la région est une zone qui est instable, avec
la plus instable en ce moment, oui.
Oui, exactement, avec des alliances mouvantes, une relation extrêmement dure, difficile entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui se partagent la quête du leadership dans la région.
Et à côté, c'est un assez mauvais signal d'ailleurs au passage qu'envoie Washington à Téhéran cette vente d'armes aux Saoudiens.
Oui, tout à fait. Ouais, complètement. Comment les Iraniens vont percevoir cette vente d'armes, ça va être intéressant à suivre dans les prochains jours. En tout cas, nous, ce qui nous inquiète, c'est la possibilité que ces armements soient utilisés encore une fois au Yémen. Hein. Au Yémen, les Nations Unies, le groupe d'experts des Nations Unies en charge de contrôler les sanctions pesant sur le Yémen, des ONG comme nous, Amnesty International et bien d'autres encore, depuis un an, ne cessons de dire qu'il faut stopper les ventes d'armes. Et nous appelons encore aujourd'hui les États à stopper les ventes d'armes vers les pays de la coalition qui utiliseraient ces armes au Yémen, parce qu'aujourd'hui nous avons la preuve. Nous avons la preuve que des crimes de guerre sont commis. Les cibles de la coalition militaire engagée au Yémen, hein, ce sont des écoles, ce sont des mosquées, c'est une usine de produits alimentaires, comme vous l'avez cité en début de reportage.
Et c'est 6400 morts, 30 000 blessés et 2,8 millions de déplacés selon les tout derniers chiffres.
Oui, et un autre chiffre que je peux vous donner, c'est plus de 700 enfants tués par la coalition. En quoi le fait de tuer ces enfants sert la sécurité de la région? Aujourd'hui, le Yémen, c'est un drame que la population civile vit au quotidien, des millions de déplacés, des millions de gens en détresse humanitaire. Ce pays est en train
de
les oubliettes et on continue à vendre des armes.
Malheureusement, Aymeric Helluin d'Amnesty International, le conflit est reparti, on l'a dit, de plus belle après 3 mois de trêve. Je vous remercie d'avoir été l'invité du journal de 12h30 sur France Culture. Merci beaucoup, Aymeric Helluin d'Amnesty International. On passe sans transition aux Jeux Olympiques de Rio. Côté sportif, la France a connu hier le déclic en affichant désormais 5 médailles de toutes les couleurs. Mais ce qui nous intéresse ce midi, c'est la couverture médiatique. Je vous en parlais dans les titres. Le traitement de France Télévisions fait débat. Bonjour Maxime Fayol.
Bonjour.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a même été saisi plusieurs dizaines de fois par des téléspectateurs, des associations aussi, pour la piètre qualité de certains des commentaires des journalistes sportifs du service public.
Et oui, ça commence dès la cérémonie d'ouverture avec le chef du service des sports, Daniel Bilalion, et son compère Alexandre Boyon. Tous deux affirment que le trafic d'esclaves a été nécessaire pour le développement du Brésil. Des propos jugés colonialistes par le conseil représentatif des associations noires qui a saisi le CSA. Une première saisine suivie de plusieurs dizaines d'autres selon le conseil, concernant cette fois ses propos en gymnastique.
C'est beau à voir à cette équipe. On dirait un petit manga un peu là, il y a tous les petits personnages qui sont contents. Et ce sourire, ouais, vraiment, on se croirait dans les dessins animés, des petits Pikachu de partout.
Ah, oh là là.
Eh oui, oh là là, trop tard. Le consultant Thomas Bouaille aura beau s'excuser le lendemain, le CSA s'est saisi du dossier et un groupe de travail va se réunir la première quinzaine de septembre pour trancher. Il faut savoir que France Télé n'en est pas à son coup d'essai en matière de dérapage de commentateurs sportifs. Rappelez-vous, aux Jeux Olympiques de Sochi en 2014, cette phrase prononcée par Philippe Candeloro, le consultant patinage. « Je connais un anaconda qui serait bien allé embêter cette Cléopâtre canadienne. » Mis de la poésie, bonsoir. « C'est déprimant, me confiait ce matin un membre du syndicat SNJ de France Télé. À l'époque, Daniel Bilalian avait simplement comparé Candeloro à un personnage de Audiard et le CSA s'était contenté, lui, d'une simple mise en garde ferme. Mais cette année, Delphine Ernotte a émis des regrets. Est-ce que la situation va changer pour autant? Le problème, c'est qu'ils sont intouchables, explique le SNJ France Télé. Et même si certains vont partir à la retraite, ce sera le cas de Bilalian à la fin d'année, il y a un vrai travail de fond à engager dans le service des sports, conclut le SNJ.
Et la valeur de respect qui vaut évidemment dans le sport. Merci Maxime Fayol. Le temps ce mercredi 10 août 2016, journée plutôt agréable, estivale même dans le sud, avec un soleil généreux, nous promet Météo France. Au nord de la Loire, c'est un peu moins bien, nuagé, éclairci sur un quart nord-est, même un risque d'averse. Température maximale 18 à 22 degrés au nord, 22 à 30 au sud. Édition réalisée avec l'aide de François-Charles Domergue. Prochain journal, je vous retrouve à 18h.